Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on évoque l'action intense de sensibilisation du dispositif national Café IA. Et on en profite pour focaliser notre attention sur les questions environnementales et surtout énergétiques posées par l'IA. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Cause commune, 93.1 FM.
Et oui, vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez toujours sur le web, sur notre site web causecommune.fm, notre app mobile Android et iPhone. Bien entendu, à Paris sur le 93.1 en FM et toute la France en DAB+. Ça marche très bien le DAB+, il faut essayer parce que on a vraiment accès à toutes les radios françaises sur quasiment tout le territoire français. Bien sûr, vous nous retrouvez aussi en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Gréco, notre directeur d'antenne, de nous donner cet espace de liberté, de nous fournir autant de beaux outils pour travailler. Alors aidez-nous en partageant cette émission sur les réseaux sociaux. Autour de vous, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, c'est notre seule récompense. Et cela nous fait connaître, car en fait ça manipule les algorithmes. Et
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Je vais vous faire rentrer un peu dans la cuisine de la construction éditoriale de cette émission. Alors pourquoi cette émission dédiée à Café IA et à l'empreinte énergétique de l'IA ? À ce micro, nous avons déjà abordé certaines de ces questions, notamment avec Juliette Fropier et l'aspect CAFNOR IA frugal, PMIA 39. On a aussi reçu les promoteurs de Ecologist.js, c'est des développeurs qui mesurent en fait l'empreinte environnementale d'un modèle, PMIA, parlez-moi d'IA 42. Mais ma camarade Isabelle, productrice et animatrice à l'antenne de Cause Commune, m'a gentiment fait remarquer que nous avions moins parlé de tout ça cette saison. C'est vrai, mais en fait, j'avoue avoir l'impression que les éléments du débat sont déjà bien connus et la cause légèrement passée sous le tapis par beaucoup d'acteurs. Comme d'habitude, Isabelle m'a permis d'approfondir cette question en l'abordant notamment du point de vue saillant des data centers et on y reviendra peut-être. Bon, j'ai donc creusé cette question, je suis tombé sur les ressources très précises et très précieuses de Café IA. Ça tombe bien, cela faisait aussi un petit moment que je voulais vous parler de l'action de ce dispositif national. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une pierre deux coups en recevant un éminent représentant du collectif Café IA, qui est en plus à l'origine de très bonnes ressources pédagogiques sur l'empreinte environnementale et énergétique de l'IA. Bonjour Augustin Romet.
Et bonjour Jean-Philippe, et enchanté, merci de me recevoir, et je suis très content d'être là pour cette émission, donc allons-y, c'est parti.
Merci à toi merci à vous d'être avec nous. J'essaie de vous voyez mes invités, tu sais, je sais pas comment on va faire aujourd'hui du coup. Alors parlez-moi d'IA, Augustin, mais d'abord peut-être présentez-vous et parlez-moi de votre parcours jusqu'à Café IA en fait.
Je vais aller un petit peu rapidement sur ce sujet-là pour qu'on ait le temps d'entrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas très institutionnel, qui vient plutôt de... Voilà, moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dès la sortie de l'école de commerce dans le digital, à faire du marketing. Et c'était le début des années 2000 et c'était déjà des grandes questions de transformation, de changement. Et il y avait déjà dans l'air le début de toute cette ère, de cette ambiance de l'angoisse, de remplacement, de tout un être de choses comme ça qui est arrivé en même temps que la numérisation de la musique. Moi, j'ai commencé en maison de disques à numériser des catalogues et à l'époque, ça n'existait pas encore. La musique commençait à être numérisée et mise à disposition sur des plateformes et donc il fallait signer des contrats, des avenants avec l'ensemble des maisons de disques, des labels, des groupes, des artistes, etc. pour faire arriver tout ce monde de la musique analogique à l'ancienne, radio, etc., CD, blablabla, dans le nouveau monde numérique qui se présentait à nous.
Donc vous rentrez dans le numérique déjà avec une première évolution, celle de la musique numérique.
Avec l'évolution de la musique, et puis en plus c'était quelque chose qui était assez peu considéré par les maisons de disques elles-mêmes, qui y croyaient à peine, et donc qui donnaient une qui prenait des gens, des stagiaires ou des juniors pour s'occuper de ce genre de sujet, mais qui du coup donnait toute prérogative. Ça veut dire que
carte blanche.
Du haut de mes 24 ans et demi, c'est moi, en étant là depuis un mois, qui allais aux commissions UPFI ou SPPF, qui sont les commissions de regroupement des producteurs indépendants, etc., pour discuter des enjeux, des règles, des métadonnées, de oui, il faut, non, il faut pas, mais à quel pourcentage on donne, etc. Donc ça m'a permis de rentrer vraiment hyper rapidement dans le vif du sujet, et puis après moi je suis resté dans un parcours globalement très très digital, parce que suite à cette première expérience en maison de disque, j'ai intégré Les Inrecuptibles, donc un média français large qui commençait sa présence sur internet, et puis il y avait déjà donc tout un tas de dispositifs de régie publicitaire, Google était déjà là, il y avait déjà de l'achat de campagne au clic, du mot-clé, des bannières et des choses comme ça. Moi, je suis arrivé aux Inrecuptibles pour développer commercialement l'inventaire de toutes ces publicités et puis les vendre au plus offrant sur le marché. Et puis voilà, après, j'ai continué en agence de créa, plutôt agence de pub, etc., à monter des dispositifs et des campagnes côté annonceur, etc., pour justement aller occuper l'espace.
Oui, on le voit, vous avez d'entrée de jeu un impact dans la révolution en cours, finalement aussi une vision marketing, mais c'est pas
un bien sûr, c'est ma formation.
Voilà, c'est votre formation en plus. Mais on voit quand même que vous êtes aussi un créatif, un créateur de contenu, et ça on va y revenir. Et du coup, si on revient maintenant à Café IA, c'est quoi Café IA en fait au niveau national, d'où ça vient et où est-ce que ça en est aujourd'hui?
Alors, très bonne question et merci de la poser. Non, mais c'est vrai que ça permet de le poser parce qu'il y a plein de petites choses différentes. Donc, Café IA, très clairement, c'est un projet qui, aujourd'hui, est intégré au service de l'économie numérique, donc au sein de la Direction Générale des Entreprises, au ministère de l'Économie et des Finances. C'est un projet qui est né au sein du Conseil National du Numérique, en 2024, en préparation du sommet pour l'IA qui a eu lieu début 2025, et au sujet duquel Emmanuel Macron avait fait un ensemble de demandes de sujets ou de directions à prendre en préparation. Et puis Gilles Babinet, qui était encore coprésident du Conseil National du Numérique à l'époque, et son secrétaire général Jean Catan, ont trouvé opportun, et grand bien leur a pris, de se saisir du dossier et de proposer d'avancer dessus. Donc voilà, c'est né à l'intérieur du Conseil National du Numérique. Et
ça fait quoi?
Comment ?
Ça fait quoi ? C'est quoi l'objectif ?
Ce que ça fait, c'est que c'est né dans le Conseil National du Numérique parce que ça permettait de prolonger un travail assez naturel qui avait été fait par le Conseil juste avant que ces questions se posent et qui a donné lieu à un chouette petit bouquin qui existe et qu'on peut toujours trouver et que nous, on a encore en stock au ministère, qui s'appelle Itinéraire numérique et qui était le rapport de mission de différents rapporteurs du Conseil National du Numérique qui étaient partis pendant un an quasiment avec un van direction la France, et ils sont partis dans le Bordelais, ils sont partis à la campagne, à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vraiment à la découverte des gens, des territoires et de leur rapport au numérique. Et se rendant compte et relatant une vraie grosse fracture entre différents pans de la société, des grandes inégalités entre les générations, entre les jeunes, les vieux, entre les urbains et les ruraux, etc., etc.
L'idée, c'est de rapprocher tous ces gens-là.
L'idée, c'était de faire état de la culture numérique globale, et est-ce que tout le monde est bien inclus, est-ce que tout le monde a bien accès aux mêmes services, et comment on fait pour aider et pour ne pas laisser sur le bord tout un tas de gens, en fait, qu'on ne voit pas et qui s'expriment assez peu ou qui sont peu visibles, etc., mais qui, en fait, ont aussi besoin de faire leur déclaration d'impôt, qui sont aussi concernés par la CAF et ses algorithmes, qui sont aussi concernés par l'intégralité du déploiement, et ne serait-ce que dans l'usage classique d'un ordinateur à l'ancienne, il y a plein de choses qui nous paraissent hyper naturelles, nous en ville, nous gens éduqués, formés, etc. Mais il y a toujours en fait énormément de gens qui font des ateliers à destination des publics les plus fragiles ou les moins inclus, qui consistent à faire un cours sur l'usage de la souris.
Oui.
Et donc c'est important de partir de là, et c'est important de faire un petit rewind jusque-là pour se rendre compte d'où on part, et donc arrivant par-dessus la couche de l'IA apparaît comme un espèce de tsunami, ouais, ou d'Everest, par-dessus cette espèce de gap numérique, enfin de culture numérique et d'usage numérique qui existe déjà. Et donc c'est là que la vision de Gilles Babinet et Jean Catan est vraiment pertinente et importante et profondément utile pour la suite des événements, c'est de se rendre compte qu'il y a un chaînage évident entre itinéraire numérique et le numérique, et cette arrivée de l'IA et Café IA. Café IA, c'est avant tout c'est un projet polymorphe, mais qui vise avant tout, comme son nom l'indique, le nom c'est un peu un nom de code, et dedans il y a une notion informelle, et ça s'appelle Café IA, pas Université IA. C'est-à-dire qu'on, dès le début, il faut comprendre que c'est pas un objectif de formation des gens, c'est un objectif de discussion, de mise ensemble, d'échange, de découverte, de débat de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a trois choses qui constituent Café IA. Café IA en tant que tel, les moments, donc ces temps d'échange, etc., pour lesquels, bah, du coup, il faut un animateur de Café IA et des formats d'animation de Café IA pour que ces moments aient lieu. Il y a un deuxième pilier qui est un socle de ressources pédagogiques, qui est un fonds de documentation qui va permettre de pouvoir avoir en tête différents enjeux, différentes billes, différentes informations qui permettent d'avoir les discussions et les débats, etc. Ouais. Et puis un troisième qui est des ressources éditoriales où on vient semaine après semaine, grâce à la plume brillante d'Hubert Guillot.
Que nous avons un petit peu reçu ici.
Exact. Faire un petit tour d'horizon des actus de la semaine, des actus du moment, et puis pointer tout un tas de choses qu'on voit qui ont un impact sociétal, qui ont un impact technique, technologique, etc.
On en profite pour dire à tout le monde de s'inscrire à la newsletter du Café IA, avec Hubert derrière la plume de cette newsletter.
Exact.
Donc, si je reprends, du coup, on a l'idée de créer des événements avec des animateurs de ces événements qui sont plutôt des bénévoles, auxquels vous fournissez une méthodologie, finalement, de rencontre et de manière d'animer un débat ou un dialogue partout, en fait, hein, que ça soit au niveau communal, dans une entreprise, dans une association, enfin, vous leur donnez une ressource pour le faire. C'est intéressant parce qu'ils s'inscrivent souvent aussi sur votre agenda, donc on peut éventuellement rejoindre un futur Café IA près de chez soi. Et il y a, du coup, cette fourniture de nombreux contenus, et il y a de nombreuses institutions qui se penchent sur le berceau de contenu de Café IA. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes thématiques, finalement, les grands modules pédagogiques qui sont disponibles via Café IA?
Alors, nous, j'explique, je pense d'abord comment on les a fait, ouais. Et ça vient assez naturellement, qu'est-ce qu'on y trouve. En fait, via Itinéraire Numérique et donc via les débuts de Café IA, c'est un dispositif qui nous permet, nous, d'écouter, en fait, ce que disent les gens. Et ouais. C'est tout le principe, c'est qu'on s'écoute et qu'on discute tous ensemble. Un Café IA, je précise juste que dans l'idée, c'est des petit groupe de personnes, c'est pas des conférences devant 100 ou 200 personnes, c'est un petit groupe de 6, 8 jusqu'à 20, 30.
Faut qu'il y ait dialogue, en fait. Faut qu'il y ait un débat qui circule.
Et puis que la parole de chacun puisse être exprimée. Donc voilà. Les max qu'on ait fait en taille, c'est une quarantaine de personnes et c'est vraiment la taille maximum. Mmh. Et il faut avoir une durée adéquate pour pouvoir faire la chose. Mais en fait, l'idéal, c'est autour d'une dizaine de personnes, c'est vraiment parfait. Ils vont mieux organiser plusieurs Café IA de 10 personnes qu'un gros truc géant de 100 personnes, parce que la matière profonde qui s'extrait de ça, elle est plus c'est intime et informel, plus ça existe, en fait. Donc pour revenir à la question, ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est assez simple et on le voit et on le lit dans les médias. Et c'est aussi pour ça qu'on trouvait ça important de monter au créneau sur le, en proposant des ressources. C'est les enjeux du travail, moi et le travail. Moi, est-ce que je vais être remplacé? Moi égale nous. Nous en tant que société, quelle est notre place? Quel est mon rôle si j'ai plus de travail, etc. Donc tout un volet autour de cette notion de la place dans la société et du remplacement par la technique. Bah donc ce module IA et travail, on l'a fait avec Laboria et notamment Ian Ferguson qui nous a accompagnés sur l'élaboration avec Joséphine Corcoral qui s'en occupait chez nous pour le mettre en place. On a travaillé aussi avec France Num ouais. beaucoup sur ce dossier. Un deuxième sujet qui est peut-être celui qui fait le plus parler et qui nous rassemble aussi aujourd'hui, qui est celui de l'impact environnemental.
Ouais, ça, on va y revenir, effectivement.
Parce qu'en fait, dans la logorée, dans la bouillie informationnelle qu'on subit à longueur de journée sur les ondes, sur les écrans, sur à la télé, dans toutes les discussions, il y a énormément de choses qui concernent l'impact de toute cette IA sur le climat, sur l'environnement, sur la consommation en eau, sur l'extraction des ressources, sur tout un tas de choses comme ça. Donc ça préoccupe les gens et c'est à un niveau qui est de l'angoisse existentielle et de l'angoisse personnelle. Donc c'est un truc qui nous semblait hyper hyper important à traiter. Donc IA et environnement, IA et travail, un autre qui est IA et information, parce que un des gros enjeux aussi, et on le voit et on le lit, pareil, en permanence, c'est quelle place à l'info versus la désinfo versus les deepfakes, etc., etc. Donc on a travaillé avec l'ARCOM pour proposer aussi une ressource qui permette de se balader un petit peu là-dedans et de comprendre les grands enjeux informationnels qui se présentent à nous. Et c'est le dernier, mais en fait c'était le premier. On a fait aussi un module tout simplement de définition qui s'appelle Qu'est-ce que l'IA qui est vraiment axé sur les LLM et donc l'IA générative qu'on a fait avec l'INRIA. Et donc c'est ces quatre gros piliers. Qu'est-ce que c'est que l'IA? IA et environnement, IA et travail, IA et information. Et au-delà de ça, après on travaille à aborder tout un tas d'autres sujets qui vont venir et qui vont être à l'ordre du jour d'ici la fin de l'année et sur l'année prochaine, des questions de IA et handicap, des questions de IA et éducation ou IA et parentalité, des questions de IA et soins. Voilà, il y a encore tout un tas de sujets et tout un tas d'enjeux qui nous restent à aborder.
Donc si on comprend bien, tout le monde peut être animateur d'un café IA. Il faut aller sur le site et puis regarder les ressources méthodologiques, les guides de construction de l'événement. Bien sûr, s'inspirer des différentes ressources pédagogiques et des informations qui sont publiées. Finalement, alors, moi j'ai entendu dire à un moment donné sur café IA, alors c'est une question un poil provocatrice, c'est de se dire finalement, mais l'État, via le CIANUM, via café IA, veut effectivement diffuser une culture numérique et IA au sein de la société. Pour cela, effectivement, fait un effort conséquent sur la création de contenu, de méthodologie, mais laisse finalement chacun faire, de manière un peu bénévole. Et du coup, il y a pas mal de choses qui se passent en France avec ces ressources-là, mais c'est pas non plus un raz-de-marée de café IA partout, parce que justement, peut-être que il y a des animateurs potentiels qui sont pas payés pour le faire, qui n'ont pas de subvention et donc qui peuvent pas le faire finalement. Est-ce que l'État n'aurait pas pu être un peu plus proactif finalement en subventionnant quelques cafés IA, quelques animateurs, ou c'est pas du tout dans la philosophie du dispositif?
L'État L'État, en fait, via le ministère de l'Intérieur et via une entité qui s'appelle l'Agence nationale de cohésion des territoires, remplit une mission d'écoute et d'aide numérique. Et donc, l'Agence nationale de la cohésion des territoires travaille, elle, avec une grosse coopérative qui s'appelle la MEDNUM, qui est là, elle, pour former des gens et les déployer sur tout le territoire pour pouvoir aller à la rencontre de tous les gens qui sont dans le besoin de soutien, d'aide par rapport au numérique. Et donc ça, c'est quand même des milliers en fait d'agents qui sont répartis partout en France. Il y en a dans les maisons France Service, il y en a à la Poste, il y en a dans les mairies, il y en a etc. etc.
Donc ceux-là, ils sont payés et ils font des caféias.
Eux, on a mis en place une formation caféia spécifique et c'est ouvert et libre. En libre accès pour eux, financé et finançable. Et donc, on a déjà plus de la moitié, en fait, de ces agents, de ces conseillers numériques et de ces médiateurs numériques qui ont suivi la formation caféia et d'accord. donc qui sont capables de déployer des ateliers, des caféia partout auprès de leur public.
Okay.
Donc, ça, c'est une chose. Mais c'est qu'il n'y a pas besoin de formation en tant que telle non plus pour faire le caféia, et l'autre moitié des gens qui fait des caféia sont vraiment, comme vous l'avez dit, des bénévoles, des gens qui prennent sur leur propre temps pour organiser ces temps, ces moments d'échange, etc. Ils le font à l'école, ils le font dans les associations, ils le font dans les MJC, ils le font aussi dans les ministères, dans l'institution, dans les mairies, ils le font dans les entreprises. On en a fait pas plus tard que cette semaine à la Fédération française du bâtiment. On en fait avec des communautés de communes, on en fait vraiment avec...
Enfin,
ça se déploie de partout, de plein de manières.
Il n'y a pas un vrai besoin de subvention de ces animateurs, finalement.
Plus il y a de mise en lumière, plus les gens ont connaissance et plus ça essaime la petite graine de l'idée que « Ah, mais moi aussi, je peux me l'approprier, moi aussi, je peux faire ce genre d'intervention. » Et ça, en fait, ça se développe un peu tout seul depuis 2 ans. Mais effectivement, on est visible à notre... échelle, sans avoir de capacité d'achat média, de visibilité, de campagne, etc. Mais on est visible parce qu'il y a plein de gens qui cherchent aussi. On est visible parce qu'il y a déjà ce terreau qui existe de l'inclusion numérique à la base. On est visible parce que le Conseil national numérique était visible et connu et suivi aussi pour ces choses-là. C'est-à-dire que ça nous a permis d'être identifiés assez rapidement par la communauté des gens de l'inclusion numérique. Et donc, il y a quand même un gros dispositif. Il y en a plus de 10 qui sont organisés chaque semaine, dont on a connaissance, plus tous ceux dont on n'a pas connaissance, parce qu'il y a un truc à... Donc, on a mis en place une cartographie, effectivement, qui permet de le voir en temps réel, quels sont les caféia qui sont programmés pour la semaine, les mois qui viennent. Mais ça, c'est hyper volontaire de la part des gens de l'enregistrer et de le mettre à disposition sur la carte. En fait, nous, on a vocation à mettre à disposition tout un tas d'outils et tout un tas de propositions dont les gens peuvent et doivent se saisir. Mais on n'a pas vocation à aller contrôler ce qu'ils font,
bien sûr.
Qui a fait quoi, combien de caféia, etc. Donc, il y a surtout plein de caféia qu'on ne voit pas. Et sur ce qu'on arrive à recenser, je pense qu'on sera largement au-dessus des 2000 cette année. Rien que sur, on a fait au mois de mai. Un gros événement qui a été bien médiatisé, énormément de presse locale pour le couvrir, mais aussi de la presse nationale, etc. Qui s'appelait la semaine de l'IA pour tous, qu'on a fait avec la MEDNUM et avec make.org aussi, qui nous a aidé à monter tout ça. Et sur une semaine, se sont organisés partout en France 1200 événements. Sur ces 1200 événements, il y avait 700 caféia. Donc sur une semaine, on a été capable de recenser officiellement 700 caféia. Donc c'est bon, il y a une capacité vraiment à fédérer et à faire exister des moments d'une manière assez significative quand même, c'est vrai.
Et caféia est très visible aussi grâce à la qualité de ses contenus. Et vous êtes média producteur au sein de Caféia, donc c'est vous qui produisez la plupart des contenus ou qui pilotez la plupart des contenus pointus et précis sur le sujet, notamment autour de la question environnementale. Quand on regarde le module IA et environnement, il y a beaucoup de monde qui se sont penchés sur ce module, hein, beaucoup d'institutions. Oui. Comment on arrive à mettre tout le monde d'accord sur ce sujet? Est-ce qu'il y a vraiment un consensus qui existe sur IA et environnement quand on a l'ADEME, l'ARCEP, l'IGN, l'Ecolab, autour de Télécom Paris autour de la table pour créer un contenu?
Je pense que l'idée, c'est pas est-ce qu'il y a un consensus, l'idée, c'est comment on crée le consensus. Je pense que c'est une petite...
Oui.
Un petit décalage.
Alors mais
il a vraiment tout son sens parce qu'en fait... Selon qui parle, va regarder des référentiels différents, des méthodologies différentes et va le voir avec des enjeux différents en tête. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de neutraliser le plus tout ce qui est enjeu personnel et de revoir qu'est-ce qui reste dans le commun de ce qui correspond à tout le monde et ce qu'il y a à tout le monde. Donc, ça a un petit peu peut-être l'écueil de pas être le plus précis, le plus pointu dans certains domaines, mais ça a au moins l'avantage de d'éviter des biais d'opinion. On arrive quand même nécessairement tous à se mettre d'accord sur le fait que ben si tous les centres de données, par exemple, tout ce qui permet de faire l'IA est en Chine et aux États-Unis, comme la Chine et les États-Unis utilisent principalement des moyens carbonés pour faire l'électricité, on est tous d'accord pour dire qu'on va avoir un problème d'émissions de CO2. Surtout si ça se développe au rythme auquel ces différents pays, donc les US et la Chine, prévoient de le développer. Donc
d'ailleurs,
il n'y a pas de problème. Après, sur le fait qu'il faut, du coup, pour faire des racks de GPU qui servent et qui font de l'inférence, il faut tous les métaux du monde, il faut énormément de matériel, il faut que ça voyage ici, là. C'est assez aberrant quand on regarde, en fait, un rack NVIDIA, comment il est fait. Il est fait à Taïwan, il est envoyé aux US ou je sais pas où, ou à Singapour, il revient à Taïwan, il est renvoyé avant de revenir et avant d'être finalisé, il a déjà fait 3 fois le tour de la Terre. C'est une manière de parler, mais il y a une vraie dimension un peu invisible.
Il y a une empreinte,
tous ces aspects-là. Et mécaniquement, tout ça, ben, il n'y a pas vraiment à se mettre d'accord parce que c'est factuel et c'est observable, en fait. Donc, après, sur les enjeux de Discord, ils sont de plein d'autres natures. Mais on laisse la place à tous les observateurs et à tous les gens qui font de l'opinion pour faire de l'opinion. Nous, on est là pour factualiser un maximum, essayer d'objectiviser un maximum pour ce que ça veut dire.
Alors, le module IA et environnement, hein, qui est un des 4 grands modules, il rappelle finalement que la question environnementale se pose surtout vis-à-vis de l'IA générative. Et de la partie un peu deep learning au sens entraînement et usage, ce qu'on appelle aussi l'inférence. C'est quoi finalement cette empreinte environnementale? C'est quoi la proportion entre entraînement et usage?
Ça, c'est vraiment des questions qui sont compliquées à pérenniser ou en tout cas à ancrer dans une timeline qui soit juste. Cette question a déjà énormément évolué, premièrement parce que la manière de faire et de concevoir et de déployer les modèles évolue, et aussi parce que les technologies évoluent énormément. Les générations de GPU qu'on utilise aujourd'hui, qui sont même pas que des GPU d'ailleurs, pour les phases d'entraînement ou pour les phases d'inférence, ne sont plus les mêmes. Et surtout, on commence déjà à avoir de l'inférence qu'on peut faire localement sur une machine. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que au début, on a utilisé les data centers pour faire du training et de l'inférence, et plus le temps va passer, plus cette inférence va être spécialisée et assez peu accessible au grand public, parce que le grand public, lui, va faire son inférence directement sur sa propre machine, en fait.
Ah, vous pensez que c'est une tendance de fond, ça?
En fait, les ordinateurs qu'on va acheter à Darty de demain seront des ordinateurs capables de faire de l'inférence en local,
auront
et qui vont intégrer dans leur corps vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'inférence en local, donc sans faire appel à un centre de données externe et sans faire appel forcément même à une connexion Internet. Donc les usages, il va y en avoir quand même énormément pour les centres de données, parce que en fait, il y a la robotique qui arrive, mais avant même de parler de la robotique, il y a tout ce qu'on appelle les jumeaux numériques, par exemple. On va plus faire de projets demain d'une nouvelle centrale nucléaire, une nouvelle usine, un nouveau pont, un nouveau viaduc de Millau, etc., sans d'abord commencer par faire son jumeau numérique. Et donc ça, à générer et à faire exister, après, c'est compliqué. Tout ce qui est World Model et tout ce que défend Yann LeCun et tout ce qu'il va développer lui et l'univers qu'il embarque avec lui, hein, autour des World Model, nécessite énormément de compute, de calcul, etc. Donc, quand bien même, du point de vue individuel, on va être capable de générer soi-même ses propres petits tokens sur sa machine, et donc si on est en France, avoir une énergie décarbonée, c'est super. On aura néanmoins énormément besoin des structures, des supercalculateurs en fait, et des centres de données pour tout un pan beaucoup plus large de calcul, que ce soit pour la santé, pour la défense, pour j'en passe et des meilleurs.
Le fameux module donc IA et environnement, il rappelle aussi que finalement les grands acteurs qui avaient, juste avant l'IA générative, notamment Microsoft, des grands objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ont un peu sacrifié cet objectif-là sur l'autel de la nouvelle IA, finalement. Il rappelle également que, finalement, il y a plein de types d'empreintes environnementales, carbone, énergétique, tout ce que vous venez de dire, de l'eau aussi, les matériaux, l'occupation des sols, et que tout ça, il faut l'évaluer avec l'ensemble du cycle de vie. Il dit aussi qu'en fait, finalement, comme vous le disiez, on a assez peu de méthodes et de données d'évaluation, mis à part peut-être celle justement de l'énergie. Et c'est là où j'en viens au contenu que vous avez créé. Vous avez créé un premier type de contenu qui sont les 20 cartes de l'impact énergétique de l'IA. Et c'est finalement la donnée qui est la plus précise, qu'on peut le mieux quantifier, qu'on peut le mieux expertiser. Qu'est-ce que vous avez voulu finalement partager avec ces 20 cartes de l'impact énergétique de l'IA?
Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est sur la forme que c'était important d'aller un peu plus loin. Je reviens un petit peu en arrière sur comment s'est créé CaféIA. CaféIA vient du Conseil national du numérique. Sa mission avant tout, c'est de faire des travaux qui sont rapportés par des rapporteurs, donc ça fait l'objet de rapports, ça fait l'objet d'enquêtes, ça fait l'objet de choses qui sont assez verbeuses et assez denses, et qui en fait ont une certaine limite dans l'accessibilité auprès des publics. Et nous, en étant à CaféIA, ça crée une différence, quelque chose qui n'existait pas vraiment à l'échelle du Conseil national numérique, c'est que nous, on va frontalement proposer les choses directement à la population lambda, tout un chacun, qui doit pouvoir, avec son propre bagage, comprendre les enjeux. Donc un besoin de vulgarisation, en fait, qui va plus loin, parce que le module dont vous parlez, IA et environnement, est précis, et tatati, tatata, documenté, hein, tout ce qu'on veut. Mais par contre, il est dense, il est long, il n'y a pas un seul graphique dedans, il y en a un et demi, mais il n'est pas fait pour ça.
Il est moins pédagogique.
Du coup, oui, et puis il faut...
Il rentre dans le dur.
Déjà, les gens lisent à peine un petit roman de vacances, alors ce genre de rapport... Non, mais après, il faut regarder aussi tout ça avec humilité.
Par exemple,
l'idée, c'est d'être à l'écoute, donc l'idée, c'était de rendre accessible. Donc, l'idée des petites 20 cartes, ce qui est intéressant avec une carte, en tant que... quand on fait de l'éditorial ou quand on produit du média comme ça, c'est qu'il n'y a que la place qu'il y a sur la carte. Et donc, l'idée, c'était de la
ça
faire...
Limite.
Au format téléphone, parce que tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone et regarde de toute façon son téléphone. Donc, qu'est-ce que je peux mettre sur une carte? Et puis, en fait, on a tellement l'habitude des stories et du scrolling, etc., qu'en fait, on flippe les cartes. On
donc, il y a un format.
D'après. Donc, le format est assez naturellement accessible pour les gens.
Et donc, vous rappelez, par exemple, qu'un prompt moyen, c'est 400 tokens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, nous expliquer un peu ce que ça veut dire?
C'est pas vraiment un prompt moyen égale 400 tokens, c'est qu'est-ce que je peux prendre comme exemple avec un volume de tokens qui soit raisonnable, qui permette aux gens d'appréhender la consommation énergétique. Donc en gros, on va partir du fait qu'une petite une question que je pose avec la réponse qui va avec fait un groupe de tokens et 400-500 100 tokens, c'est à peu près ce qu'il faut dans l'exemple que je prends pour poser la question de qu'est-ce que le silicone et avoir une réponse de bah, le silicone c'est ci, c'est ça et tatati tatata. Donc après, l'idée c'est de pouvoir voir à l'interaction quel est le poids de mon interaction. En termes d'impact, est-ce que moi, quand j'interagis directement avec la chose, j'ai un impact sensible que je peux observer, ou est-ce que ça me dépasse et est-ce que c'est plus structurel que ça, etc.
Ouais, on peut expliquer qu'un modèle, les modèles ont des différences d'empreinte environnementale.
Il y a énormément.
Vous reprenez notamment les exemples donnés par les grandes firmes elles-mêmes, Mistral et Google, quand ils donnent eux-mêmes leurs données concernant leur modèle. Et on voit qu'un Mistral Large, par exemple, c'est pour cette moyenne de tokens de 400, ou en tout cas d'un prompt médian, c'est 1,14 grammes de CO2 rejeté, c'est 45 millilitres d'eau utilisée, alors que Gemini, eux, disent que cette même usage, c'est 0,03 grammes de CO2 donc, et 0,26 millilitres d'eau. Alors après, c'est les données hein, qui sont fournies par les éléments, mais... Et donc c'est aussi cette compréhension-là que vous essayez de mettre en œuvre avec ces cartes, de faire comprendre qu'il y a des différences d'usage finalement.
Il y a des grosses différences d'usage, et puis ce qui était important à faire comprendre dans la manière dont c'est chaîné ces 20 cartes, c'est que finalement je pars de mon usage personnel depuis mon appareil quand j'interagis avec un LLM, mais en fait je me rends compte que il y a d'énormes différences de consommation entre un petit modèle gratuit qui sont les modèles utilisés par plus de 95% des gens, ouais. En fait, et les énormes modèles qui font appel à des milliards de paramètres, etc., qui eux sont hyper énergivores, mais qui sont utilisés en fait par beaucoup moins de gens. Mais ces 5% d'utilisateurs qui utilisent les gros modèles, à l'inverse, c'est eux qui ont la plus grosse part de l'empreinte, en fait. C'est les 5% qui utilisent les gros modèles qui ont 95% de l'empreinte, et les 95% qui utilisent les mini-modèles et le gratuit qui sont quasiment pas visibles, en fait.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je pensais que c'était 80-20, mais c'est 95-5, en fait, la fois des proportions.
Si on regarde le nombre d'utilisateurs payants annoncés par OpenAI ou par Anthropic, et si on le met si on fait le ratio avec le nombre d'utilisateurs total, gratuit et payant combiné, c'est à peu près ce que ça donne comme truc. Mais pareil, ça va être ancré un peu dans le temps et ça va vite être périmé comme manière de le regarder, ouais. J'insiste encore une fois. L'inférence et les LLM arrivent nativement sur les machines, en fait. Et
donc, je crois que c'est une bonne nouvelle, moi, ça.
Donc, du coup, ça pose plein d'autres questions. Modèle fermé et modèle ouvert sera une autre question qui sera vachement plus... Et d'ailleurs, qui est déjà au centre des conversations, là, au moment où on se parle. Ouais. Parce qu'en fait, NVIDIA, assez intelligemment, fait partie des gens qui ont développé du LLM totalement open source, open weight, etc. Et donc, ne participent pas vraiment à ce modèle payant. Eux-mêmes font payer différents éléments, leur librairie, leur infrastructure, bien sûr, elle est payante. Mais par contre, le LLM, ils ont un Nemotron, il s'appelle, qui est très bien noté sur les benchmarks et qui se débrouille très bien. Qui est totalement gratuit, libre et open source, open weight.
Eux, ils vendent finalement le chipset de calcul, ouais, et ça les intéresse qu'on utilise des modèles gratuits et faciles.
Donc, dans le deal qu'ils ont annoncé pendant le GTC et pendant Vivatech et sur les éléments de cette année, Nvidia et Microsoft, c'est ça qu'ils disent. Microsoft va vous fournir un ordi dans lequel nous, Nvidia, on a mis un LLM open source, gratos, que vous pourrez utiliser en local. On a même mis nos librairies CUDA. Et pour les plus connaisseurs des sujets, voilà, avoir CUDA en direct à l'intérieur de son propre PC qu'on a acheté à Darty, ouais, ça commence à être une informatique. Voilà.
Bon, et vous disiez qu'il y avait une différence dans ces usages quand on se situe et qu'on utilise des infrastructures en France ou ailleurs dans le monde. C'est quoi finalement la différence potentiel entre les data centers. Vous pouvez nous la réexpliquer d'un point de vue environnemental ?
Ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut mesurer facilement, c'est l'empreinte directe. C'est-à-dire, quand je fais tourner mon data center ou mon ordinateur, ou que je recharge mon téléphone, j'utilise de l'électricité. Cette électricité est directement responsable. Donc, c'est en opposition à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'analyse en cycle de vie.
Oui.
L'analyse en cycle de vie, elle est beaucoup plus complexe et sur ce genre de, d'infrastructure, elle pose aussi tout un tas de questions de méthodologie pour arriver à être pertinente. Mmh. Et la question des générations, donc si on revient à l'impact environnemental global et si on prend autre chose que l'énergie directe et donc c'est le CO2 équivalent, en fait, on s'aperçoit que les premières générations de GPU étaient en système d'eau ouvert et avaient telle et telle caractéristique technique qui sont plus du tout vraies trois générations de plus après où tout est en circuit fermé, etc. Donc l'impact en eau depuis 2002, entre 2002 et aujourd'hui, a été drastiquement réduit. Et donc dans le futur développement des futurs data centers, il sera...
Une question moins importante.
Un très faible problème, ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'a pas été sur la première phase, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas un problème dans des endroits où il y a du stress hydrique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas un problème aux US, mais nous, on n'est pas aux US, on est en France. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir distinguer un petit peu toutes les choses pour savoir de quoi on peut parler précisément et qu'est-ce qui est un peu plus nébuleux. Donc voilà, pour reprendre la question, nous, ce qu'on peut mesurer, c'est on connaît l'intensité carbone des mix électriques des différents pays. Et donc, en fonction de où est faite l'inférence, ça fait tant de consommation électrique qui, correspond à tant d'émissions.
Oui.
Ça, on peut le savoir, ça, on peut le dire, et ça, on peut le relater. La France, c'est une électricité à 95% décarbonée, et la moyenne, en gros, l'espace moyen, c'est 10 à 15 fois plus carboné que nous. Une électricité d'un pays qu'on prend au pif, si on fait un chifoumi, ça va être entre 10 et 15 fois plus que nous. Un facteur 15, c'est énorme.
Du coup, d'un point de vue environnemental, la France est très attractive pour déployer ce type d'infrastructure. Et est-ce que c'est pas aussi un souci finalement ?
Je ne sais pas si elle est attractive, mais en tout cas, elle est beaucoup plus vertueuse avec la Norvège et la Suède qu'une grande partie des pays du monde. Après, il y a d'autres pays qui sont assez bien placés, mais peu importe. Et après, c'est une histoire d'espace et c'est une histoire de, oui, mais jusqu'où on a des watts, combien on en a et à qui on les donne. Est-ce que c'est de la souveraineté? Est-ce que c'est pour les autres?
Sans rentrer trop profondément dans le débat des data centers, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir ensemble prochainement dans une autre émission. Mais est-ce que les 69 milliards de dollars, entre guillemets, envisagés d'investissement en France en data center, c'est pas aussi beaucoup lié au fait que la France a une électricité, a une énergie peu carbonée finalement, la moins carbonée de quasiment du monde avec la Norvège et je sais plus quel autre pays. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait l'attractivité finalement du territoire français pour implanter ce type de... infrastructure.
Alors ça l'est tout à fait, et en même temps c'est un truc où il faut pas se tromper d'échelle. On est capable de déployer des grands projets d'infrastructure, on va être capable de déployer des gigawatts, mais en fait si on regarde un petit peu ce qui se présente à l'horizon, nous on va viser d'en installer entre 2 et 3 gigawatts d'ici 2030 et peut-être 5-6 d'ici 2035, mais déjà à horizon 10 ans c'est très dur d'y voir quelque chose. Mais juste pour revenir à horizon 2030, donc dans les 4-5 ans qui viennent, nous on en vise 2 ou 3 gigawatts, les US visent d'atteindre 100 gigawatts.
Ah oui.
Donc en fait, ça veut dire que...
Mais ultra carboné pour le coup.
Carboné à leur mix, et eux, ils brûlent du gaz, parce que c'est ce qu'ils ont sous le coude. C'est quand même mieux que s'ils brûlaient du charbon, mais c'est quand même pas top. Et c'est pas des choses qu'on peut faire facilement en disant c'est génial, j'ai plein de photovoltaïques ou plein de renouvelables. On a besoin de stabilité. Le data center, il faut qu'il tourne quoi qu'il arrive et il a besoin d'une base. Donc le gaz, c'est pour ça qu'il est utilisé, c'est que le gaz, tant que je le laisse allumer, il est allumé, et quand je l'éteins, il est éteint. Et j'ai pas de variations à gérer, j'ai pas de complexité de grille à gérer. Donc pour cette raison, et en plus parce que les États-Unis sont un territoire de cow-boys depuis toujours, où il faut comprendre aussi culturellement que c'est hyper différent comme société. Il y a ce qu'ils appellent « behind the meter » là-bas, c'est-à-dire derrière la mesure. C'est que nous, on a une grille en France, personne ne peut installer une centrale en France et la mettre en route et se joindre au réseau ou alimenter des trucs. Il y a des autorisations, c'est hyper encadré, etc. Alors qu'aux US, ben voilà, un cow-boy en chef du type Elon Musk prend des décisions tout seul, importe une turbine à gaz, l'installe, la met en place et provisionne de quoi alimenter les procès qui vont suivre. Mais personne ne l'aura arrêté pour le faire. Et c'est en route et ça calcule et on verra bien ce qui se passe.
Oui.
Cette culture-là des US aussi favorise le fait que y a un côté un peu plus sauvage dans la manière de l'installer. Je pense qu'on a un gros biais en France, c'est qu'on est hyper sensibilisé aux questions climatiques. En fait, on s'en rend à peine compte, on s'en rend compte quand on voyage et quand on voyage notamment aux US, etc. Les considérations qu'ont les gens pour ce genre de choses sont en fait assez faibles à côté de nous, de l'espèce de conscience ou de culture collective qu'on a développée autour de ces enjeux-là.
Européenne,
même
peut-être.
Même s'il y a un backlash écologique, même s'il y a sur les 10 dernières années, il y a une énorme culture écologique qui s'est quand même développée.
Je profite de votre présence pour vous poser aussi des petites questions plus précises, moins géopolitiques et moins globales sur l'énergie. On le disait, il y a une certaine empreinte des modèles, on va dire, classiques, des modèles où on pose une question et on attend une réponse, ou en tout cas on interagit de manière, on va dire, modérée, au coup par coup, un peu en mode ping-pong. Puis il y a une nouvelle révolution qui est en cours, c'est celle des agents IA. Où finalement ces modèles s'autonomisent dans la construction de leurs réponses, s'autonomisent dans la construction d'actions, et finalement vont être autonomes dans leur consommation et dans leur reconsommation et dans leur reconsommation de requêtes et de tokens auprès d'autres agents d'ailleurs, auprès d'autres services. Et il y a une espèce d'effet boule de neige où ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, la question-réponse, va être démultiplié par ces usages d'agents IA. On a une visibilité sur ce que ça entraîne effectivement des usages, l'usage des agents IA sur cette consommation énergétique.
Je pense que c'est beaucoup trop pluriel et hétérogène comme environnement pour qu'on puisse à ce stade en parler comme ça.
Notre thermomètre est un peu trop petit.
Oui, il y a énormément de possibilités en fait d'interaction et chaque utilisateur va avoir des chaînages différents dans l'idée. Chaque entreprise, chaque organisation va mettre en place des typologies d'agents qui, eux, utilisent tel et tel type de protocole. Certains qui restent fermés, d'autres qui sont ouverts, d'autres qui sont sur Internet, d'autres qui sont qui peuvent pas être sur en ligne, etc., etc. Très très compliqué d'imaginer pouvoir définir des archétypes,
ouais,
en fait.
Et de mesurer ce que ça fait.
Mais une manière de comprendre tout ça, c'est d'imaginer que aujourd'hui l'industrie, elle a un goulot d'étranglement qui va être l'énergie disponible, qui va pas être l'usage. L'usage, il est utilisé à fond. Et un data center traditionnel ou classique, ça fonctionne pas à fond tout le temps parce que ça en garde sous le coude pour les soirs de match, pour les jours de sortie du nouvel épisode de la série, etc., etc. Donc ça garde de la marge.
Pour un usage qui n'est pas IA.
Pour un usage pas IA. Tandis que dans les usages IA, ça génère le max de tokens. C'est le seul but. Et donc si j'ai 1 gigawatt de puissance, j'utilise 1 gigawatt tout le temps à fond.
Et ça, ça a une conséquence sur la consommation finale.
Et oui. Tout à fait. Et du coup, entre un centre de données type classique ou traditionnel et un centre de données à l'IA, celui qui est dédié à l'IA consomme deux fois plus, en fait, à l'année.
Oui, parce que finalement, un centre de données classique, il est à 50% de sa performance, globalement, il utilise qu'à 50% de ses capacités, alors que l'IA quasiment à 95-98% tout le temps.
Et c'est fait pour théoriquement marcher à 99,9. Non, mais c'est vraiment vrai. Après, c'est des espèces de standards et de normes d'industrie, etc. Donc, ils sont, voilà. Ce que dit la norme, c'est que ça peut tourner à 99,9%.
Ouais. Donc, il y a une puissance d'appel, ouais, qui peut être la même pour les deux types de data center. Par contre, la consommation finale, vu que la capacité n'est pas utilisée de la même manière, elle est multipliée par deux.
Elle est multipliée par deux à la base, d'une structure à l'autre. Et après, comme on veut calculer beaucoup et que ça s'appelle des supercalculateurs et qui sont vraiment utilisés que pour ça, ils vont être beaucoup plus puissants, en fait.
Ouais.
Et donc, ce data center d'Île-de-France qu'on va faire à Fouju, par exemple, va être 200 fois plus puissant que la moyenne d'un data center traditionnel. 200 fois plus puissant en consommant x2. Donc ça fait un facteur x400, en fait.
Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, grâce notamment aux cartes, aux 20 cartes de l'IA produites par Café IA, et d'autres ressources que vous proposez, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme grande règle d'hygiène environnementale aux utilisateurs de l'IA? Qu'est-ce que vous préconiseriez dans un débat Café IA quand quelqu'un vous dit « Bon, ok, moi je veux quand même continuer à utiliser l'IA, mais être dans des dispositif un peu plus frugaux ou vertueux d'un point de vue environnemental. Qu'est-ce que je me donne comme grande règle d'hygiène ?
Alors, nous, on travaille depuis quasiment le début, Café IA, avec un projet qui était incubé par la DINUM qui s'appelle Comparia.
Mmh. On l'a reçu ici aussi.
Et donc, Comparia a cette capacité à lever cette question que vous venez de poser. Ok, mais est-ce que j'ai besoin de l'IA pour faire ça? Et donc, en gros, nous, c'est un des trucs qu'on dit, c'est ça. C'est déjà, posez-vous la question. Faut se poser la question. Est-ce que j'ai besoin de l'IA pour une recette de je sais pas quoi? Et il y avait beaucoup au début cette espèce de comparaison entre une requête Google et un résultat de recherche.
Différence de 10.
En fait, aujourd'hui, ça a disparu totalement, puisqu'en en plus, une requête. Non, mais une requête Google devient.
Lance une requête IA, oui.
Voilà. Donc là, on est un peu dans un truc où cette discussion.
Peut-être
urgent
de changer de moteur de recherche.
Oui et non, parce qu'en fait, même Ecosia le propose, si vous voulez.
Mais on doit pouvoir le désactiver, non?
On peut le désactiver, mais en fait, à l'usage, quand les gens trouvent plus d'intérêt à l'usage, quand l'usage devient plus fluide et plus naturel.
Oui, mais quand on considère que la règle d'hygiène voudrait que. Ouais, je comprends. Hein, du coup, on va vers la facilité, mais on peut aussi avoir la conscience que cette facilité a des conséquences environnementales, et on choisit finalement d'aller vers une facilité relative et d'avoir des gestes d'hygiène, notamment environnementale, un peu différentes vis-à-vis de cette pratique. On peut aussi avoir cette conscience-là. Moi, je pense qu'il faut un peu de temps en temps conscientiser un peu nos actes.
Oui, je pense que c'est assez important et on est un pays où c'est possible, en tout cas, d'avoir de l'action et de l'interaction sur ces enjeux-là.
Ouais.
Pour autant, encore une fois, ici, ce qu'il faut, nous, on essaie d'amener les gens à comprendre leur monde aujourd'hui et demain. Et dans le monde de demain, mon inférence, encore une fois, comme elle est locale sur mon électricité décarbonée, etc., même si j'ai un agent qui fait ci ou ça, en fait, mon usage est presque de facto frugal si je suis un utilisateur français de 2028, par exemple. Par contre, c'est quelles industries, quels usages, est-ce que la publicité, est-ce que le marketing, est-ce que l'audiovisuel, etc., etc. Comment on va arriver à démêler un petit peu là où il y a des usages qui sont clairement intensifs et problématiques, là où c'est des usages qui sont intensifs mais nécessaires. Parce que si c'est pour faire de la recherche sur du médicament, etc., ça a beau être intensif, ça nous intéresse de le faire. Si c'est intensif pour faire des navets ou Non, mais ou de la grosse pub, ou des espèces de trucs qui vont amener à de la consommation par ailleurs, qui vont amener à avoir...
Ouais, il faut en prendre conscience.
Parce qu'il y a tout le chaînage de ça, en fait. C'est l'action de faire une pub amène de la consommation, qui fait venir un truc de Chine, etc., etc.
Bien sûr.
Et donc, c'est toute cette conscientisation-là. Mais en fait, c'est pas séparable de la sobriété numérique. Mmh. Et donc, c'est ça un peu, moi, mon enjeu sur ce grand sujet-là, c'est de ramener les gens à dire, attention, ne mettez pas l'IA comme si c'était quelque chose de sécable et de séparable du numérique. Considérez-le comme vous considérez vos usages numériques, en fait. Parce que, comme il n'y a plus de différence demain entre les deux.
Très intégré.
Et donc, du coup, c'est les règles de la sobriété numérique qu'on a développées les 10 dernières années sont les règles de l'IA sobre qui vont nous aider demain.
On ne pourrait pas imposer aux fournisseurs de mesurer, comme on le fait pour un billet d'avion finalement, donner aussi une mesure de ce qui vient d'être demandé au modèle à produire en termes ne serait-ce que de gaz à effet de serre ou consommation énergétique.
On pourrait leur demander de le dire, de faire état de l'ensemble de l'inférence qui a eu lieu sur leur centre de données.
Ouais.
Parce qu'ils vont louer cet espace de calcul à quelqu'un qui en est propriétaire quand ils ne sont pas eux-mêmes les propriétaires, parce que tout le monde n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir investir et avoir ses propres structures. Donc on pourrait avoir des états comme ça, comptables de qui a bénéficié de l'inférence, et puis après avoir des cotes-parts, comme on fait des quotas carbone.
Ouais. Fait.
On pourrait avoir ce genre de choses-là. Ouais. Quel intérêt ça aurait dans le sens où, encore une fois, ce gigawatt va être utilisé. Donc, en fait, il va être utilisé en intégralité. Donc, est-ce qu'on intervient sur l'intégrale et sur l'opérateur de cette chose, ou est-ce qu'on intervient sur les gens qui utilisent cette chose via une quote-part, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Mais là, je pense qu'il y a de l'espace pour 10 ans de discussion parlementaire.
Est-ce que c'est le tarif qui peut réguler? Est-ce que c'est le fait qu'à un moment donné, cette industrie qui est, semble-t-il, assez subventionnée, voire très subventionnée par des capitaux risqueurs, si ça s'arrête, va devoir faire payer au vrai prix? Et du coup, ça va un peu réguler les usages, parce qu'effectivement, les vrais prix... des vrais gros modèles, c'est pas ceux qui sont aujourd'hui utilisés.
Ça aussi, c'est un petit peu nébuleux, parce que tous les particuliers, tous les utilisateurs lambda ont accès à leur IA en local sur le truc, ça veut dire que de facto, les infrastructures bénéficient à d'autres gens. Mmh. Qui sont ces autres gens, machin, etc. Quelle est la capacité à rentrer dans mes frais, et etc., etc. Ça repose la question de la bulle, oui, mais c'est trop d'investissement, ce sera jamais recoupable, etc. Mais si on regarde, je reviens sur Elon Musk, encore lui, mais si on regarde comment il opère et ce qu'il vient de faire coup sur coup avec les data centers sauvages qu'il a lui-même pris la décision de mettre en route, c'est qu'il en a loué un de ses data centers à Anthropic et il a loué l'autre à Google. Et il les a loués, je crois que pour Google, c'est à peu près 1 milliard par mois, et pour Anthropic, c'est 1,25 milliard par mois. Anthropic, c'est un deal sur 3 ans, et Google, c'est un deal sur je sais plus combien de mois, mais en tout, ça fait 75 milliards de dollars de recettes et de chiffres d'affaires. Il faut compter dans les grandes lignes, en macro, disons entre 40 et 50 milliards de dollars pour avoir 1 gigawatt de data center. Là, il les a remboursés, en fait, son investissement.
Oui.
Et donc, bulle, pas bulle, qui investit ou pas, etc., jusqu'à quelle capacité ça va être faisable, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau et que d'ici 3 ans, toutes ces questions-là, franchement, à part des liseurs de lignes de la main, des liseurs et des oracles grecs du marc de café, franchement...
Bon, on va rester sur cette conclusion très ouverte. On a, du coup, grâce à vous, eu pas mal d'infos sur Café IA. On sait que maintenant que n'importe qui, finalement, qui a envie de débattre et de dialoguer, peut trouver des ressources méthodologiques sur Café IA. Il y a notamment ces 20 cartes sur les impacts énergétiques de l'IA. Écoutez, merci beaucoup, Augustin, de tout ce partage.
Et c'est moi qui vous remercie, c'était un super moment d'avoir cette discussion avec vous.
Vous venez de sortir des éléments complémentaires qu'on a un peu abordé vaguement, sur les data centers, sur la question des data centers et notamment l'implantation des data centers en France. Et bien écoutez, si ça vous va, je vous propose qu'on refasse une émission sur ce sujet précis des data centers français. Est-ce que vous êtes disponible ?
Et tout à fait, avec grand plaisir. Ce sera un petit peu pour moi l'occasion de présenter, d'aller un petit peu plus loin. C'était le coup d'essai, les 20 cartes, comme un prototype, comme une preuve de concept qu'on peut aller amener de la vulgarisation cool qui touche les gens et qui leur sert et qui leur est utile à comprendre. Et donc là, ça va un peu plus loin, parce qu'il y a trois différentes dimensions. Il y a un grand papier de fond qui est un grand article très intense qui va reprendre l'esprit et l'idée de nos modules pédagogiques. Il y a un volet intermédiaire qui va être sous la forme d'infographies, mais qui sont bien plus fouillés et détaillés et commentés que les 20 cartes. Et donc, en soi, c'est déjà plus costaud que les 20 cartes. Mais il y a aussi une version encore plus simplifiée en vidéo, et c'est une première pour nous de lancer ces formats-là. C'est en deux petites vidéos, comprendre le sujet. Donc, il y a une vidéo de 4 minutes, une de 4 minutes 30. En 8 minutes 30, je peux faire le tour du sujet. Et c'est aussi bien pour du 10 à 88 ans, quoi.
Merveilleux teasing pour cette prochaine émission. À bientôt, Augustin.
Merci beaucoup.
Merci. Et merci à vous, chers auditeurs. Cette émission vous a plu. Usez de votre grand pouvoir. Likez cet épisode. Manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Allez rester sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.